Monde. Vous êtes dans la joie ce matin? Il y a intérêt. Il y a intérêt parce qu'avec ce qu'on a vécu ce matin, si on n'est pas dans la joie, ben je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que la présence du Père, quand même, elle réjouit nos cœurs et c'est merveilleux. Et ben en fait, quand je vous dis ça, parce qu'on va continuer la série, il y a quelques semaines déjà, j'avais partagé un premier message autour de ça, autour de la joie. Et c'était un message qui était centré sur la parole, et notamment sur Jean 16. Et ben, j'avais à cœur de poursuivre et de continuer à méditer sur la parole, sur un passage bien particulier qui nous parle de joie et qui nous parle de l'amour du Père pour nous. Et ben, Seigneur, je veux te confier chacun ce matin, te confier chaque cœur, Seigneur. Toi seul connais les cœurs, toi seul sais les sonder parfaitement. Et tu sais, Seigneur, que la joie, parfois, ce n'est pas un état où on arrive facilement. Il y a parfois des moments où on est triste, il y a parfois des moments où on est en colère, il y a parfois des moments où on est dans la crainte, où on est dans la peur, mais Seigneur, tu ne veux pas qu'on reste dans cet état. Tu veux, Seigneur, qu'on aille vers la joie. Tu veux, Seigneur, qu'on soit des gens qui soient réjouis, réjouis de ta présence, réjouis de ton amour, réjouis de ce que tu nous as libérés, de ce que tu nous as vraiment fait fils et filles. Seigneur, c'est par ton nom, Seigneur, que nous sommes fils et filles et que nous pouvons t'appeler Père, Papa. Et c'est une vraie réjouissance. Et je prie dans le nom de Jésus que ce matin, les cœurs soient disposés. Que ce matin, Seigneur, tu enlèves tout esprit de confusion, tout esprit de tristesse. Tu viens, Seigneur, laisser toute la place à ta parole et que ta parole ce matin, elle soit agissante, qu'elle vienne vraiment agir. Seigneur, par ta parole, tu as créé le monde. Alors par ta parole, Seigneur, qui va être déclarée, proclamée ce matin, tu vas venir restaurer des cœurs brisés. Et tu vas venir amener la joie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines, on a médité ensemble un verset, et on a médité notamment ce verset dans Jean 16, 22. Vous êtes maintenant dans la tristesse, dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. C'était des paroles fortes de Jésus qui s'adressait à ses disciples quelques heures avant d'être livré. Et en fait, ils ne niaient pas qu'ils allaient vivre des moments compliqués, des moments très difficiles, des moments de tristesse. Mais ils faisaient une promesse, c'est qu'il allait les voir de nouveau, qu'il allait revenir, et que ça allait être une source de joie incroyable pour eux, et que cette joie, personne ne pourra l'enlever. Et cette parole, elle résonne encore ce matin. Nul ne vous ôtera votre joie. Ça, c'est la promesse de Jésus à laquelle j'aimerais qu'on s'accroche vraiment. Parce que c'est une promesse qui est une promesse de joie indestructible, une joie qui finalement naît de cette rencontre que l'on a avec le Christ ressuscité. Et j'avais cette conviction, et puis elle s'est encore affirmée cette semaine, c'est que la joie, c'est quelque chose qui dit, qui parle de ce qu'on est en tant qu'Église et en tant que membre du corps, de cette lumière qu'on est appelé à être, de ce sel qu'on est appelé à être aussi. Et j'avais une conviction depuis quelques semaines déjà, c'est pour ça que je médite vraiment sur ce thème dans la parole et que j'avais envie de vous le partager. C'est que le réveil auquel on aspire tous, ça doit passer d'abord par un réveil personnel, par une joie qui doit monter de chacun de nous, qui doit être vu, visible, avant que ce réveil auquel on aspire, auprès de nos familles, auprès de nos villes, de nos nations, puisse se manifester vraiment. Et j'avais ce sentiment, et le Saint-Esprit appuie fort dessus, que ce réveil, pour qu'il arrive, il faut qu'il y ait une étincelle, et cette étincelle, ça doit être la joie qui vit en nous, et la joie qui doit déborder, qui doit déborder dans nos familles, qui doit déborder dans tous les lieux où nous sommes appelés à vivre. Et elle s'est renforcée cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, curieux hasard, enfin, je ne crois pas au hasard, je pense que Dieu et le Saint-Esprit font en sorte que les circonstances et les événements s'alignent. J'étais dans une formation, dans mon entreprise. Toutes les années, il y a une coutume, c'est d'organiser des formations de management. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je gère un réseau de magasins sur une partie de la France. Et voilà, j'ai différents collègues qui gèrent d'autres secteurs. Et toutes les années, donc on fait une formation en management. Voilà, le management, c'est l'art de diriger des personnes, des collaborateurs, des responsables, des vendeurs, etc. Et cette année, la thématique, elle était un peu différente, enfin orientée, sur ce qu'on appelle l'IE. Ça vous parle, l'IE ? L'intelligence émotionnelle, exactement. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais il y a aussi l'IE. L'IE, c'est l'intelligence émotionnelle. Et il y a des défis aujourd'hui dans l'entreprise avec cette génération Z, etc., les jeunes qui arrivent et qui sont soi-disant compliqués à manager, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est très à la mode dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on est en train de passer d'un management ou d'une gestion qui était directive, qui était assez autoritaire dans le passé, à quelque chose de plus collaboratif, de plus participatif, où on fait participer plus les collaborateurs et avec leur qualité propre et leurs émotions. Parce que de cette formation est ressorti qu'il existait 4 émotions primaires. La tristesse, la peur, la colère, il y en a une quatrième, c'est la joie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que de ces 4 émotions primaires, il y en a 3 qui sont... Et il y en a une qui est complètement. Et en fait, tout le talent de notre formatrice pendant ces 2 jours, c'était de nous expliquer que les défis des managers aujourd'hui, mais j'élargis un peu le spectre, pas que des managers, finalement, ça nous concerne tous dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de famille, dans les interactions qu'on peut avoir avec les uns et les autres dans nos activités. Elle a passé ces 2 jours à nous expliquer que les défis, en fait, c'était de reconnaître, d'accueillir ces 3 émotions négatives chez les gens qu'on rencontre. Cette peur, cette colère, cette tristesse, et puis finalement d'essayer de les transformer et de faire tendre ces 3 émotions négatives vers la seule et unique émotion positive qui est la joie. Alors je voulais vous partager ce court témoignage parce que je pense qu'il est significatif aussi de l'aspiration des gens, du monde, de cette aspiration finalement de chaque humain, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit renouvelé par l'esprit ou non, de cette aspiration profonde qui est de vivre la joie. Moi, j'ai bu du petit lait pendant ces 2 jours, hein, je vous assure. Je savais que j'allais... Enfin, j'étais en train de préparer le message et je savais que j'allais vous le partager aujourd'hui. Et finalement, ça m'a énormément réjoui, finalement, de vivre ces 2 jours alors que j'étais parti pour, encore une formation management. J'en ai déjà fait 15. Je vais encore perdre 2 jours. Ça va m'ennuyer au possible. Et puis finalement... Non, ça m'a vraiment ouvert des perspectives nouvelles et je rends gloire à Dieu pour ça. Et donc aujourd'hui, on va aller plus loin. Après nous être nourris des paroles de Jésus dans Jean 16, je vous propose ce matin de nous plonger dans un autre passage de la parole pour venir mettre en perspective cette joie selon le cœur de Dieu. Et c'est dans Romains 8. Vous êtes OK avec ça? Ça vous va? Parce que Paul, dans Romains 8, qui est quand même un chapitre assez incroyable de la parole de Dieu, il nous révèle que la joie du royaume, c'est la joie d'une vie nouvelle dans l'esprit. Quand Jésus parle à ses disciples, là, il leur promet le paraclète dans Jean 16. Vous voyez, dans Jean 16, il y a une promesse qui est faite par Jésus, du Saint-Esprit qui va venir. Et puis Romains 8, l'apôtre Paul... Il détaille quelque chose comme l'accomplissement. Vous voyez, Jean 16, c'est la promesse. Et Romains 8, c'est vraiment l'accomplissement de cette parole. Parce que combien de fois, nous croyants, c'est vrai, on se sent triste, on se sent abattu, on se sent fatigué, attristé. Combien de fois, finalement, on va chercher pour tendre vers la joie, des joies à l'extérieur, dans un bon moment passé avec des amis, dans une soirée, on va kiffer, comme disent les jeunes. Les jeunes, on a kiffé aujourd'hui, c'était une super soirée. Alors oui, ils viennent avec la banane le lendemain au boulot, mais le soir, ils sont déjà fatigués, quoi. Ils ont passé juste un bon moment, et puis la joie véritable, ils ne l'ont pas vraiment expérimentée. Parce que le royaume de Dieu, nous dit Paul, et c'est pas encore dans Romains 8, mais c'est dans Romains 14 au verset 17, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que la joie, c'est vraiment cette marque du royaume. La joie, c'est cette empreinte du ciel. Oh, il n'est pas allumé, dommage. Sur la terre. C'est ça la joie. Parce que finalement, face à ces épreuves, c'est facile de perdre la joie. C'est facile de perdre la joie, mais quand on regarde au ciel et quand on regarde à notre cœur, au fond de nos entrailles, on peut la retrouver. On peut la retrouver, parce que notre quotidien, la stratégie de l'ennemi, elle est toute centrée vers ça. Toute centrée vers les épreuves, vers les luttes, les déceptions, la fatigue, pour voler cette joie qui est notre force. Parce que la parole de Dieu nous dit que la joie, c'est notre force. Et dans Romains 8, pour le coup, Paul il va nous révéler le secret de la joie véritable. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui est l'œuvre accomplie de Christ en nous. En nous. C'est une joie qui est spirituelle. C'est une joie qui est solide. C'est une joie qui triomphe. C'est cette joie du « nous sommes plus que vainqueurs ». Et ça, c'est enraciné, et on va le voir dans, finalement, la liberté, dans notre filiation et notre identité, et puis dans la victoire. Alors, on va rentrer plus précisément dans Romains 8, et juste pour donner un point de contexte, parce qu'effectivement, c'est un verset, un chapitre qui est un peu le sommet de l'épître aux Romains. Et c'est un chapitre qui est extrêmement puissant si on le médite. Et vraiment, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse entrer vraiment dans la profondeur de ces versets qu'on va donner, parce qu'ils sont profonds et on peut vraiment se les approprier et aller chercher quelque chose de très joyeux, quelque chose qui va nous apporter la paix, quelque chose qui va nous sublimer, qui va vraiment nous apporter une paix qui surpasse toute intelligence, toute pensée. Donc au début du chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Aucune condamnation. La thématique centrale de Romains 8, c'est vraiment ça, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. La loi de l'Esprit nous a donné la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Dans Romains 6, Romains 7, on voit que Paul il est en prise avec la chair, il a de la difficulté. Et Romains 8, ça vient vraiment remettre tout le sens de l'Esprit de Dieu qui est venu sur eux, qui est venu en eux et qui leur donne cette liberté. La clé de toute joie véritable, c'est de vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit. Celui qui vit selon l'Esprit expérimente la paix, on voit ça au verset 6. Il expérimente la liberté, on voit ça au verset 15. Il expérimente la joie d'être enfant de Dieu, versets 16 et 17, et la victoire sur toute chose. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs à la fin du chapitre au verset 37. Et Romains 8 se termine vraiment par ce cri de victoire. Et la joie, telle que je l'ai vue en méditant l'ensemble du chapitre de Romains 8, j'ai trouvé quatre thématiques, ou en tout cas quatre points centraux. C'est la joie de la liberté, on va le voir. C'est la joie de l'adoption. C'est la joie de la foi. Et ça va être la joie de la victoire. Ces quatre points qui ressortent de manière très forte de ces paroles. Donc la joie de la liberté, c'est dans « il n'y a plus de condamnation ». Romains 8 démarre donc avec ces deux versets, 1 et 2. « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Quelle parole, quelle libération! Quand l'apôtre Paul dit ça, il montre comment commence la vraie joie. Par la liberté du pardon. C'est la liberté du pardon, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. La joie du royaume, elle naît le jour où on réalise que notre avocat, il a été excellent, que le verdict est tombé, tu es non coupable, tu es libre et tu es pardonné. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de dette et il n'y a plus de honte. C'est terminé. Et ça, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une simple joie qui est passagère. Ça, c'est une révélation spirituelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car c'est la loi de l'Esprit qui donne la vie. Dans cette union, nous sommes en Christ. Et il nous a libérés. Parce que finalement, le péché, l'ennemi, la culpabilité, toutes ces choses ont été pendant longtemps nos geôliers, mais Jésus a brisé les chaînes. Tout comme Paul et Silas dans leur prison alors qu'ils chantaient les louanges à l'Éternel, paf, la joie, qu'est-ce qu'elle a produit? Une libération incroyable. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on a été libéré, qu'on a été pardonné, bah c'est une joie sainte, c'est une joie profonde, c'est une joie indestructible que nul ne peut ôter, comme nous disait Jésus. Bah c'est ça qui vient en nous. Parce que déjà le psalmiste disait, psaume 32:1, « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Ou heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. » Il y avait déjà une profonde joie. Il y a une profonde joie à être saisi de cette vérité que tu es accepté, que tu es adopté, que tu es aimé. Et cette joie-là, ben, le monde, il ne peut pas te la donner, mais il ne peut pas te la reprendre non plus. Il ne peut pas te la reprendre. Ce n'est pas une joie superficielle. Oui, tu es adopté. Et ça, c'est le deuxième point, c'est la joie de l'adoption. On va lire dans Romains 8, du verset 14 au verset 17. Et combien j'ai ressenti ça pendant cette période de louange, à travers les chants qui ont été chantés, les prières, tout ce qui a été proclamé. Et la parole est alignée avec ça. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Amen, amen et amen. Voilà cette autre source de joie, c'est l'adoption. On n'est plus orphelin, on n'est plus esclave. On n'est plus condamné. On est les enfants du roi. On est les héritiers du royaume. Et Paul, il dit là, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Autrement dit, c'est l'esprit de Dieu qui en nous vient nourrir et vient entretenir cette joie de la filiation. L'importance du témoignage du Saint-Esprit en nous qui vient entretenir ça. Et quand tu cries Abba Père, ben c'est plus une prière, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que devant nos ennemis, c'est un cri de joie, c'est un cri d'appartenance. C'est un cri de victoire quand on crie Abba Père. Tu dis, je suis plus seul. Tu dis, je suis plus abandonné. Tu dis, j'ai un Père céleste qui veille sur moi. J'ai un Père céleste qui marche avec moi et qui m'attend. Et qui m'attend. Vous serez dans la joie et nul ne vous l'enlèvera. J'aime tellement cette parole. C'est ça la promesse de Jésus. Une joie que personne ne peut ravir. Parce qu'elle ne dépend pas de la terre, elle dépend du ciel. Elle dépend du ciel. C'est pas juste un ressenti. Parler de réconciliation, je crois que c'est toi, Jérémy, qui priais. Cette réconciliation avec le Père. Le ministère de la réconciliation, c'est le plus beau ministère qui nous a été donné. C'est pas le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes ou que sais-je. Bien sûr que ces ministères sont essentiels et importants. Mais ce ministère de la réconciliation, être réconcilié avec le Père et en étant réconcilié avec le Père, réconcilier les uns avec les autres. Oui, on a été adopté, justifié, glorifié. Alors notre cœur, il ne peut pas rester silencieux. Alors bien sûr, la joie, ça peut être un état extérieur où on manifeste de la joie, du sourire, des rires, et c'est bon, et c'est tellement bon quand on passe ces moments. Mais la joie du cœur, elle peut être intérieure aussi. Et finalement, quand on expérimente ces vérités de la parole, ben notre cœur, il est réjoui. Et on doit exploser en louange parce que finalement, quand Christ dit « je vous reverrai », c'est pas simplement qu'on soit dans cette attente un peu passive du retour de Jésus, de l'enlèvement, etc. Même si on aspire à ça, mais moi j'ai cette conscience, et j'espère qu'on l'a tous, qu'on est assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Comme le dit Paul encore aux Éphésiens, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et ça, c'est une vérité, moi, qui réjouit mon cœur, parce qu'on est déclaré fils et fille du roi, et qu'on est avec lui au pied du trône, et que rien ne peut nous atteindre, rien. C'est ça la joie de l'adoption, de la filiation en Christ. Et puis, malgré tout, il y a cette joie aussi qu'on peut expérimenter dans les épreuves. Et Romains 8 nous le décrit aussi. Au verset 28, l'apôtre Paul nous dit « Nous savons du reste que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, conformément au plan divin. » Frères et sœurs, c'est ici que notre joie, finalement, elle se distingue, et que la joie du royaume, elle se distingue de la joie du monde. Le monde, il va chercher la joie dans ce qui va bien. Il va chercher la joie dans ce qui est positif. Mais le croyant, lui, il va même trouver la joie dans ce qui semble mal aller. Et pourquoi ? Parce que nous savons. Parce que nous savons. C'est pas de l'orgueil que de dire ça. C'est juste la foi, la certitude de la foi. Nous savons. La foi dit que même dans mes larmes, Dieu y travaille. Même dans mes pertes, Dieu, il est en train de préparer un gain. Même dans les moments où je suis brisé, Dieu, il est en train de bâtir quelque chose qui est glorieux. Donc ce n'est pas une joie qui est naïve, hein, la joie des chrétiens. Ce n'est pas une joie naïve. Parce que nous savons par la foi. Cette joie, elle n'est pas naïve, elle est même prophétique. Elle voit au-delà du présent, de ce qu'on est en train de vivre. Et ça se fonde sur un Dieu qui règne, un Dieu qui est souverain. Et l'apôtre Paul, il ne cesse de nous encourager dans cette voie. Pas que dans Romains 8, évidemment, dans quasiment toutes les épîtres et dans Philippiens, il le dit encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il répétait ces choses parce que, à l'époque, il y avait quand même un peu de persécution pour les premiers chrétiens. Mais c'est quand même la joie qui dominait et qui devait dominer. Mais cette joie-là, elle ne va pas nier les douleurs, mais elle va les traverser comme ça. Elle va juste les traverser. C'est un acte de foi, c'est un cri spirituel qui dit « Mon Dieu est sur le trône et il règne. » Mon Dieu est sur le trône et il règne. C'est pourquoi la joie, finalement, c'est une arme spirituelle. On l'avait décrit il y a 15 jours, 3 semaines, quand on avait partagé là-dessus. C'est une arme. C'est une arme. Quand l'ennemi il essaye de te déstabiliser, quand il essaye de t'accuser, quand il essaye de t'abattre, la joie du Seigneur, c'est ton bouclier. C'est ton bouclier. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. C'est écrit en gros, en gras, sur la lettre de nouvelles. Répétez-le-vous. Il faut se le répéter. Dans Néhémie 8, 10, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. La joie, elle va briser les forteresses de la peur. Elle va confondre les ténèbres. Et puis elle va dire que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Et cette joie, ce n'est pas simplement qu'une émotion finalement. Cette joie, c'est la manifestation de la victoire de Jésus-Christ en nous. Et ce passage, on va prendre le temps de le lire. On va prendre le temps de l'absorber. On va prendre le temps de le laisser agir en nous. Dans Romains, à la fin, Romains 8, 31-39, le sommet de Romains 8, cette joie de la victoire, cette joie des rachetés, cette joie de l'amour inébranlable. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, rien, rien. Paul ne dit pas « nous allons peut-être vaincre ». Il dit « nous sommes plus que vainqueurs ». plus que vainqueur. C'est ça la joie du royaume. C'est une joie de vainqueur, c'est une joie qui triomphe. C'est une joie qui est éternelle. Quand tu comprends que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, t'as pas peur du lendemain. T'as pas peur de la mort. T'as pas peur de l'échec. T'as pas peur de ton compte en banque qui est dans le rouge. T'as pas peur. Tu n'as peur de rien. Ta joie, elle devient ta bannière. Ta joie, elle va proclamer mon rédempteur vit. Ta joie, elle va déclarer au monde spirituel, je suis aimé, je suis justifié, je suis couvert du sang de l'agneau. C'est ça. Et c'est cette joie que le diable y déteste. Parce qu'il ne peut pas la voler. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle vient du Saint-Esprit, cette joie. Elle vient de nos entrailles. C'est le fruit d'une vie qui est en Christ. Ce n'est pas le fruit d'une vie de confort. C'est facile, le confort. Mais là, c'est une vie qui coule en nous, cette vie de Christ. Seigneur, cette joie, c'est pas un fruit pour notre bien-être personnel. C'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est un réveil spirituel en nous. En nous. C'est une joie qui vient nous embraser, mais qui derrière vient déborder. C'est pas que pour nous. C'est pas qu'une agitation spirituelle qu'on cherche. C'est juste une visite du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu en nous. Pour nous, mais pour les autres aussi. Que ça déborde. Que ça déborde. Une joie qui vient envahir le peuple et qui vient transformer. Transformer nos familles, transformer nos quartiers, transformer notre travail. Seigneur, je prie que cette formation que j'ai eue, je l'ai priée, mais je continue à le prier. Vous priez pour vous aussi. Que ça ait un effet, Seigneur, que cette joie, Seigneur, qui nous est donnée par le monde, bien finalement, elle ne soit pas, Seigneur, qu'une joie du monde, mais qu'elle soit perçue comme une joie qui vient de l'Esprit qui veut parler au monde, qui veut parler au monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Nous sommes ces fils de l'homme. Un ardent désir, il y a un ardent désir qui brûle. Seigneur, tu vas le faire. Tu l'as déjà fait. Psaume 126,2 dit « Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Oui, le réveil qu'on attend, il commence par un peuple renouvelé dans la joie du salut. La joie du salut. Un feu qui se répand, cette joie qui devient contagieuse. Elle va attirer les perdus, elle va ouvrir le ciel sur nos communautés. Pas simplement dans cette église, dans toutes les communautés. Et que cette joie qui vient du ciel, ce soit vraiment le signal, ce signal d'un réveil à venir. Que nos cœurs soient prêts, que nos cœurs soient prêts, qu'ils ne soient pas dans la tristesse, mais qu'ils soient vraiment dans une attente joyeuse, une attente joyeuse, remplie de louanges, remplie de foi. Malgré les circonstances, on est dans cette attente. Parce que oui, la joie, c'est une arme. C'est une puissance spirituelle. Le peuple de Dieu, il doit retrouver cette joie du salut. Cette joie du Saint-Esprit. On ne peut pas être une église abattue. On ne peut pas être une église qui est dans la tristesse, qui est dans la peur. Parfois même dans la colère, pour revenir aux émotions primaires. Mais le peuple de Dieu, il doit retrouver cette joie du salut du Saint-Esprit, parce que notre joie, c'est un témoignage, frères et sœurs. C'est un témoignage. Quand le monde voit un chrétien joyeux malgré la tempête, qu'est-ce qu'il voit à votre avis? Il voit le royaume. Quand une église, elle loue dans la douleur, Le ciel, il s'ouvre et Dieu, il agit. Cette vérité que je dois et qu'on doit tous avoir en nous, car cette joie, elle vient du cœur de Dieu et puis elle coule comme un fleuve de vie. Elle coule. Elle coule. Et oui, c'est un témoignage. Et le témoignage est important. J'ai pris une initiative et je l'ai fait valider par l'équipe de responsables. Et Romain, si tu veux bien diffuser la petite diapo. Cette joie que Dieu nous donne, qu'il nous donne gratuitement parce que c'est une grâce. La joie, c'est le grec chara, kara, un charisme. C'est un don qu'on ne mérite pas. Et cette joie, oui, elle tabernacle en nous, pour reprendre une expression chère à notre ami Pierre. Le Saint-Esprit tabernacle en nous, la joie tabernacle en nous. Et on doit pouvoir témoigner de ça. On doit pouvoir s'encourager, frères et sœurs. On doit pouvoir s'encourager les uns les autres. Quand le Seigneur agit, quand le Seigneur fait de bonnes choses, quand il est fidèle, quand il produit de la joie en nous, on doit en être tous témoins les uns les autres. Alors oui, il y a des cercles restreints, des cercles d'affinité, vous partagez des choses, vous priez des choses ensemble. Et l'Église, ce corps, il doit être aussi au bénéfice de ce que chacun vit et de ce que chacun expérimente en termes de joie. Et puis c'est une force spirituelle aussi. Dans Apocalypse, si tu peux mettre le verset, alors c'est juste, voilà. Jean, il nous dit, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. » Le témoignage, c'est ça l'arme, la force spirituelle. Le témoignage que Dieu agit dans nos vies. Nous devons témoigner de ça. Entre nous et au dehors. Et ce que je vous propose, de façon très simple, si tu peux cliquer, c'est de créer un énième groupe WhatsApp. On en a déjà des dizaines. Des centaines peut-être. Mais celui que je vous propose, alors soyez libre, il y a un QR code que vous pouvez flasher si vous le désirez. J'ai créé un groupe qui s'appelle donc La joie qui tabernacle en nous. Et ce que je propose, c'est que chacun puisse librement écrire ce que le Seigneur a fait de bon dans sa vie. Aujourd'hui, hier peut-être, demain, et que chacun puisse être au bénéfice, et que chacun puisse être encouragé, fortifié par ce que Dieu fait et par la joie qu'il procure en nous. Pour les technophobes, qui n'auraient peut-être pas WhatsApp, évidemment, vous n'êtes pas laissés de côté, et vous avez la liberté de venir me voir, nous voir. Et on pourra partager, il y aura sans doute un volontaire ou une volontaire qui voudra bien partager ce message de joie que vous auriez à partager à l'ensemble de la communauté. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie d'expérimenter. Évidemment, chacun est libre. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, mais en tout cas, c'est important que le témoignage que nous avons à apporter puisse être su, puisse être partagé et que l'ennemi, nos âmes, qui a été vaincu par le sang de l'agneau, puisse être encore terrassé par le témoignage que nous avons encore plus. Donc soyez libres de le faire. Et je veux juste finir par la prière. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour la joie du salut, Seigneur, que tu nous as donné, la joie de ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette joie qui vient du ciel et que le monde ne peut ni donner ni enlever. Le monde ne peut pas enlever notre joie. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous brisons tout esprit de tristesse parmi nous, Seigneur. Nous brisons tout joug, Seigneur, qui voudrait nous laisser dans l'abattement, tout joug qui voudrait nous laisser dans le découragement, tout joug qui voudrait nous laisser dans la culpabilité. Et nous le brisons et nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force, que la joie du Seigneur est notre force, et que nous nous réjouissons et que nous prenons autorité sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses circonstances, et nous déclarons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant et qu'il brise tous les jougs, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ! Abba, Père ! Merci, Papa ! Merci, Papa ! Parce que tu le fais. Parce que, Saint-Esprit, tu viens nous remplir de cette joie divine. Tu viens nous remplir de cette joie qui vient du ciel. Pas d'une joie éphémère. D'une joie qui vient du ciel. Que nos vies, Seigneur, deviennent des instruments de joie entre tes mains. Que nos vies de joie débordent. Que nos vies de joie débordent. Qu'un fleuve de joie déborde dans nos familles, dans nos villes, dans notre travail, nos écoles, partout. Partout où nous sommes amenés à fouler cette terre, Seigneur. C'est ta joie qui est en nous et qui rayonne. Cette lumière, cette étincelle de joie, c'est elle qui va embraser le monde. Nous voulons des cœurs embrasés, mais ça commence par les nôtres. Embrase-nous, Seigneur, embrase-nous de ta joie, embrase-nous de ta paix. Que cette joie et cette paix soient notre partage. Et que ta gloire, Seigneur, rayonne, rayonne dans nos vies et dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus.